Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
La sécheresse qu'on a eue cet été, c'est pas seulement une sécheresse climatique. La sécheresse qu'on a eue dans les cours d'eau, elle est liée à l'usage absolument délirant que Sapiens a de l'eau. On se doit de partager l'eau, en fait, avec l'ensemble du vivant. Aujourd'hui, les rivières s'assèchent, non pas à cause de l'évolution du climat, à cause des pratiques agricoles depuis 40 ans. Le problème du climat commence tout juste à arriver. Mais en fait, la sécheresse, elle est bien plus ancienne, elle est liée à nos pratiques agricoles depuis 40 ans. Maintenant, en plus, on a le problème du climat qui arrive. Ce qui est dramatique, c'est qu'ils vont nous expliquer que parce qu'il y a les problèmes du climat, que la sécheresse, c'est à cause du climat. Mais non. On n'est pas encore dans les problèmes climatiques. Enfin, si, on commence là, à les toucher vraiment, mais... Bon.
Canicules à répétition et sécheresses de ces derniers étés ne sont pas tant dues au réchauffement climatique, qui certes est de plus en plus flagrant, compliqué de le nier. Les pénuries d'eau de ces derniers étés sont, pour le moment, surtout causées par la destruction du cycle naturel de l'eau au profit, à très court terme, de l'agriculture industrielle et aussi des centrales nucléaires. Nous subissons notamment les conséquences de la canalisation et du bétonnage des cours d'eau, bétonnage des sols, destruction des zones humides, du bocage. Une série d'aménagements, comme on dit, ont accéléré le parcours de l'eau qui ne peut plus correctement recharger les nappes. À cette catastrophe, parmi d'autres, s'ajoute celle du réchauffement climatique qui, lui, ne fait que commencer. On n'a encore rien vu. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off pour la suite de notre dramatique série SOS H2O au secours. Et on va encore parler de la Loire aujourd'hui. La Loire à titre d'exemple, pour parler de l'eau en général. Et on se retrouve donc à nouveau en bord de Loire, à Rochecorbon, en amont de la ville de Tours, région centre. Et c'est en un lieu baptisé le Pelliot qu'on trouve la base de l'école de Loire et association La Rabouilleuse, créée par Clément Sirgue, navigateur chevronné, animateur nature, et j'en oublie, Clément qu'on rencontre pour une conversation fleuve. Salut Clément.
Salut.
On se retrouve ici à cet endroit qui s'appelle le Pelliot. C'est là où il y a la base de la Rabouilleuse, cette école de Loire, association, où on apprend non seulement à naviguer, mais où c'est un lieu de vie aussi, où on fait, où on échange, où on cogite, où on prend du plaisir, où on apprend aussi à comprendre ce milieu particulier qu'est le fleuve, qu'est la Loire. La Rabouilleuse, c'est un peu tout ça.
Oui, déjà, effectivement, c'est un espace en bord de Loire. Le Pelliot, ça, c'est un terme auquel on était assez attaché. Moi, ça relie aussi avec un peu mon enfance et mes bords de l'Indrois. Ouais, en fait, c'est un terme vernaculaire, donc c'est un très vieux terme. Ça s'écrit pas toujours de la même manière que t'es soit en Sologne ou dans le Berry. Mais en gros, ça définit des zones qui sont à proximité de la rivière. Avant même la Révolution, c'est très ancien, c'était des communaux. Et donc c'était des terrains qui ne pouvaient pas être privés, qui étaient le lieu sur lequel les gens se retrouvent pour faire les feux de Saint-Jean. Et c'est le moment où tu fais les embauches aussi. Toi, tu cherches du monde pour aller faire les foins. J'ai fait un parallèle avec aussi, tu vois, les grèves. Tu vois, il y a la place de Grève, par exemple, à Paris. C'est les endroits... En fait, souvent, les gens se retrouvent au bord de la rivière pour partir après au boulot ou pas. Et tu retrouves ça aussi dans la Rome antique, à Ostia Antica par exemple, que le port de Rome, le vieux Rome, où les rives ne peuvent pas être privées. Et c'est un mélange, si tu veux, de à la fois, c'est des lieux qui sont trop humides et donc pas très intéressants, parce que tu peux pas construire de maison, et en même temps trop précieux, parce que c'est l'accès à l'eau. Bref, cet imaginaire autour du Pelliot, de ce terrain communal, ou en tout cas en commun, sur lequel on se retrouve pour faire la fête et pour se mettre en action. Voilà, ça nous a bien plu. Donc on a un peu rebaptisé l'espace et puis ça commence à rentrer. Maintenant, ça y est, même dans les passes jaunes, il y a le Pelliot. Ça me fait marrer. Ouais.
Bon, c'est une émission qui parle beaucoup de politique et d'histoire. En quelques secondes, on est déjà dedans. Tu as déjà dit un gros mot, commun. Commun vital qu'est l'eau. Tout de suite, on fait de la politique. On a déjà commencé à tacler l'histoire de la propriété privée, de ces usages qui existaient sous la vilaine monarchie, dont on est bien content de s'être débarrassé. Mais Mais avec les bourgeois, finalement, et 1789, on a guère gagné au change. Les enclosures, les piquets, les fermés, les espaces qui étaient communs avant et qui ne le sont plus, la propriété privée. Ben voilà, ça y est, on fait déjà de la politique. Alors que je voulais juste te parler, finalement, de la pluie et de ce qui n'a pas été vraiment le beau temps de cet épouvantable été 2022. C'est aussi pour ça que je viens te voir aujourd'hui. On est dans cette série d'émissions autour de l'eau. J'ai vécu un épouvantable été 2022. J'étais sur le pas de ma porte l'autre jour, là, c'était début novembre. Je disais, oh la merde, novembre, la déprime, au secours. Et comme tous les ans, je me suis mis à calculer le temps qui nous sépare de ce qu'on appelle les beaux jours. Et au vu des canicules à répétition qu'on a vécu cet été, je me suis rendu compte que pour la première fois de ma vie, en fait, j'ai pas particulièrement hâte que les beaux jours, si, mais en tout cas que l'été revienne, non. Parce que ça a été épouvantable. Et encore, je bossais pas. Hein. Spéciale dédicace à tous les gens qui travaillaient en juillet-août, enfermés dans des bureaux où il y avait des gens à côté de chez moi sur la voirie avec des chaussures de sécurité, des vêtements de sécu, qui bossaient sous le cagnard. Enfin, donc je l'ai pas trop ramené parce que j'avais la chance d'être en vacances. Heureusement que j'ai pu sauter sur mon vélo et venir jusqu'ici pour me rafraîchir, faire un peu de bateau, grimper dans des arbres. Voilà, merci la rabouilleuse de m'avoir en fait sauvé cet été, j'allais dire pas de fin du monde, j'ai eu cette perception de fin de notre monde. Quand je dis notre, hein, celui de Sapiens Sapiens qui sait pas grand chose, animal perverti par la culture capitaliste. Comment ça s'est passé ici à la Rabouilleuse cet été 2022? Vous avez pu naviguer?
Ouais, on a navigué tout l'été.
Il y avait du banc de sable quand même. Hein.
Il y avait du banc de sable, ouais, ouais. Il y avait du banc de sable. Et puis paradoxalement, on a assez peu navigué au mois d'août parce qu'effectivement, la plupart des médias ont traité de la sécheresse, ont besoin de symboles et donc ont illustré cette sécheresse en montrant la Loire très basse. Et du coup, les gens pensaient qu'il n'y avait plus de bateaux puisque n'ayant plus d'eau dans la Loire, voilà. En réalité, il y a eu de l'eau et nous, on n'a jamais arrêté de naviguer. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une sécheresse terrible. C'est toujours ça qui est un peu compliqué. Aujourd'hui, tu peux plus, en regardant la Loire, te dire « tiens, c'est le niveau des nappes ». Pourtant, ça devrait être le cas. Hein. C'est-à-dire que la Loire, c'est la nappe à ciel ouvert. Quand tu vois l'eau de la Loire, bon, c'est l'eau qui coule, si tu veux, dans le sens de la pente, hein, donc vers l'océan, alors de manière très schématique, de la montagne vers l'océan. Mais en réalité, quand tu fais un trou dans un banc de sable juste à côté, tu vas trouver de l'eau aussi, hein, puisque les rives du fleuve ne sont pas étanches. D'ailleurs, tout le fond de vallée, c'est du sable. Et donc, dans ce fond de vallée, si tu fais un trou, tu trouves de l'eau. Tous les gens de Saint-Pierre le savent. Hein, et ça, c'est ce qu'on appelle la nappe alluviale. Puis, si tu fais un trou dans le coteau, sur le plateau, quoi, tu vas trouver de l'eau aussi au bout d'un moment. Et là, c'est ce qu'on appelle la nappe phréatique. Et si tu veux, toute cette eau, que ce soit l'eau de la nappe phréatique, l'eau de la nappe alluviale ou l'eau de la Loire, c'est la même eau. C'est l'eau qui tombe du ciel et qui est retenue quelque part par une couche étanche. Donc il y a des connexions entre toutes ces nappes. C'est intéressant de les distinguer, mais ça reste quand même la même eau. Quand la Loire monte, elle va déborder dans son lit majeur. S'il n'y avait pas l'élevé, mais bon, voilà, elle va charger la nappe alluviale qui elle-même va charger la nappe phréatique. Et à l'inverse, en été, quand la Loire est basse, alors les nappes phréatiques viennent alimenter la nappe alluviale qui elle-même vient alimenter la rivière. Ça se remet à niveau, quoi. Et donc, dans l'absolu, quand tu regardes la rivière, tu devrais avoir une idée du niveau des nappes. Ça ne fonctionne plus tout à fait comme ça aujourd'hui parce qu'on a foutu des sortes de prothèses à un milieu, et notamment qui sont des barrages. Et donc, cet été, on avait plus d'eau qu'il y en avait dans les nappes. C'est-à-dire que le niveau de la Loire était au-dessus du niveau de la nappe alluviale et de la nappe phréatique. Alors, ça peut servir effectivement aux centrales, notamment à diluer leurs produits, parce qu'en fait, c'est ça essentiellement l'enjeu, hein, plus que le refroidissement, c'est de pouvoir rejeter le tritium et les différents produits, si tu veux, dans un fleuve. Et en dessous de 50 mètres cubes secondes, ils n'ont pas le droit de rejeter tous ces produits-là, puisque c'est aussi quand même l'eau qui sert à l'alimentation de la ville de Tours, par exemple. Donc, il y a des normes et il y a des doses un peu à respecter. Bon, alors les normes, c'est eux qui les font, donc c'est toujours un peu compliqué. Hein. C'était 60 mètres cubes, là, ils ont eu une dérogation, ils sont descendus à 50 mètres cubes. L'enjeu, il est essentiellement là, en fait. Et puis, nous, mariniers, on profite vaguement, tu vois, comme une sorte de bénéfice collatéral, très relatif, hein, mais voilà, effectivement, on avait un peu d'eau pour circuler en bateau.
Tout, Futreau, Gabar, ces embarcations de Loire, ce sont des bateaux à fond plat, mais que la plupart des bateaux qu'il y a à la Rabouilleuse, quand on n'est pas trop chargé, on peut naviguer sur un tirant d'eau de 15 cm.
Ouais, c'est ça. Enfin, sur les petits futraux, là, on est sur du 15-20. Et puis sur la Sibylle ou la Rabouille, on est autour de 30-40. Donc c'est très peu d'eau, si tu veux, hein, effectivement. Donc on arrive à circuler. Peut-être qu'un jour, on ne pourra plus circuler. Hein. C'est tout à fait envisageable, vu en tout cas les directions qu'on prend. Le barrage, là, cette année, ça a été très très chaud. C'est-à-dire que au mois de septembre, là, à une semaine près, le barrage ne pouvait plus alimenter. Et donc là, d'un coup, on tombait à 10 mètres cubes seconde. C'était plus la même.
Alors tu disais naviguer, oui vous avez navigué cet été, enfin je t'ai vu cet été, fallait connaître le chenal hein, quand même, c'est-à-dire qu'il y avait du banc de sable partout et qu'il fallait être observateur quotidien du milieu, ce qui est ton cas, pour savoir où passe le bateau et où est-ce qu'il ne peut pas passer. Quelqu'un qui ne sait pas, il s'ensable dans les 5 minutes.
Oui, 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 non mais c'est clair qu'il y avait très peu d'eau de toute façon cet été. Quand tu pars 3-4 jours, ben, la première balade, t'es pas hyper à l'aise parce que, effectivement, si t'as pas un suivi quotidien des niveaux du passage, parce que ça bouge hein, toujours, t'as vite fait de te dire mince, où est-ce que je passe ? Alors, le paradoxe, si tu veux, c'est que normalement, donc s'il y avait pas ces barrages, probablement qu'on aurait pu traverser la Loire à pied sec. Alors, est-ce que c'est grave ou pas ? Oui et non. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un usage et on a des politiques et une gestion de l'eau qui est complètement centrée sur les usages humains. Et en l'occurrence, les usages de certains humains et de certaines logiques humaines, notamment là, en l'occurrence, celles des centrales, qui sont prépondérantes, semble-t-il. Et donc, les barrages sont gérés pour alimenter les centrales en eau et en chasse d'eau, en fait. C'est une chasse d'eau. C'est exactement le principe de la chasse d'eau. Et donc, il faut pouvoir tirer la chasse dès qu'on a foutu un peu de merde. On peut pas rester comme ça chargé, si tu veux, tu vois, sinon quand on va pas... Bon, bah pour les centrales, c'est 3 semaines. Si toutes les 3 semaines, il n'y a pas une chasse d'eau, c'est compliqué. Donc, la gestion qui est faite par les barrages, c'est de dire, on va retenir l'eau quand il y en a, l'hiver, et pour pouvoir la rejeter l'été. C'est exactement la même logique que celle des bassines. C'est-à-dire qu'il y a besoin, comme ça, de réguler. Quel gros mot, réguler. Il est paradoxal ce terme parce que, en fait, globalement, dans une assemblée, quand tu as quelqu'un qui va être un peu régulateur, tu te dis c'est plutôt une bonne chose, tu vois. C'est un mec qui va essayer que les gens s'entendent. Et là, c'est vraiment un mot pervers parce que, en fait, la rivière, elle a besoin de monter, elle a besoin de descendre. Il y a des rythmes. En fait, notre Loire, hein, ce fleuve-là, parce que c'est pas comme ça sur toute la planète, si tu veux. Les climats sont divers et variés, et les rivières sont multiples. Mais notre fleuve Loire, parce que son climat, parce que son bassin versant, parce que la géologie, c'est une rivière à marnage. C'est une rivière qui va monter l'hiver et qui va descendre l'été. Et c'est comme ça depuis des milliers d'années. Donc tout notre écosystème s'est adapté à ces variations. Et s'il n'y a plus ces variations, ça ne fonctionne pas. Et donc, si tu veux, il y a besoin de la crue et il y a besoin de l'étiage. C'est pas grave qu'il n'y ait pas d'eau l'été au mois de septembre. Par contre, c'est un drame qu'il n'y ait pas d'eau au mois d'avril. Et le problème là des barrages, c'est qu'ils vont retenir l'eau au printemps et donc empêcher les montées d'eau, ce qui du coup a une énorme conséquence sur tous les migrateurs qui vont pas avoir, si tu veux, assez d'eau pour remonter la rivière. Si tu veux, plus il y a d'eau, plus la colonne d'eau est importante, plus ça sera facile de franchir les obstacles. Ça, tu peux l'observer, par exemple, tout l'été à la guinguette de Tours. Là, tu vois bien que sous le pont Wilson, il y a une sacrée marche. Si tu retournes sous ce pont en hiver, à un moment où il y a beaucoup d'eau, tu vas voir que la marche, elle est effacée. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'eau qu'en fait, il n'y a plus de marche. Tu peux passer avec un petit bateau à moteur sans problème. Et donc, il y a besoin de beaucoup d'eau l'hiver pour que les migrateurs passent, et il y a besoin de l'étiage l'été pour que les sternes posent leurs œufs sur les bancs de sable, par exemple. Donc ces variations sont essentielles.
Et ça me fait penser à mes cours d'histoire géo de collégiens, quand on t'apprend le Nil, les Égyptiens, les bienfaits de la crue, le limon, tout ça.
Ouais, bien sûr, effectivement, le Nil va fonctionner de la même manière et c'est un des grands drames.
Jusqu'au barrage d'Assouan, quoi.
Exactement, non mais, et c'est assez marrant parce que tu vois, alors hier on était avec la mission Val-de-Loire et il y a Roberto Epelé, président de SOS Loire Vivante et très structurante sur le fleuve, puisque ça a été ce combat très important autour des barrages dans les années 80. Et il rappelait ce truc-là, c'est que l'inscription et la notion de valeur, puisqu'on célébrait les 50 ans du classement au patrimoine mondial. Alors, pas de la Loire, hein, la Loire, ça fait une vingtaine d'années, mais de manière générale, le fait qu'il y a un ensemble de gens au niveau mondial qui aient reconnu une valeur à un patrimoine. Et en fait, ces valeurs-là, et qui ont eu besoin d'être défendues, sont arrivées au moment du barrage d'Assouan. C'est-à-dire que c'est le fait de faire ce barrage, d'être obligé de déplacer des bâtiments absolument incroyables qui avaient une valeur. Ils se sont dit, non mais là, il faut qu'on classe. Bon, souvent, bah, c'est un peu en réaction à des constructions qu'on se rend compte de la valeur des choses. Et peut-être que cette sécheresse va nous permettre de se rendre compte de la valeur de l'eau. Mais le paradoxe, c'est que ces barrages presque nous empêchent de comprendre. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas les barrages, il n'y aurait pas d'eau. Et si là, il n'y avait pas eu d'eau cet été dans la Loire, alors peut-être qu'il y aurait eu un éclairage. Et ça fait longtemps, je veux dire, c'est pas juste cette année, 2019, il n'y aurait pas eu d'eau. Donc voilà, je suis un peu tiraillé avec cette histoire de barrage, d'autant que si tu veux, ce barrage, donc, il rend service un peu aux mariniers, certes. Il rend service essentiellement aux centrales. Il rend service, même pas, je pense pas, à l'alimentation en eau. Il rend pas service aux poissons, il rend pas service au milieu. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que c'est important d'élargir un tout petit peu nos prismes, quoi. Il ne rend pas service au milieu, c'est pas vrai. On a eu une altercation justement au comité de bassin cet été, avec un gars qui nous disait « Oui, s'il n'y avait pas les barrages, vous feriez du bouche-à-bouche à vos poissons. » Bah, rien de moins sûr. Parce que les poissons, si tu veux, cet été, ils étaient dans les trous. Hein, le fond du lit, il n'est pas linéaire, c'est pas une pente douce comme ça qui va vers l'océan. C'est plein de marches, c'est le fameux cul de grève, voilà, il y a des marches dans le fond de la rivière, et puis il y a des trous à chaque fois qu'il y a un point dur. Ça va être un tronc d'arbre, un reste de construction humaine, induit, un épi, dès qu'il y a un tas de cailloux, il y a une concentration du courant qui va creuser, et qui va faire un trou. Et les poissons, ils sont dans ces trous-là. Quand c'est la sécheresse comme cet été, les poissons, ils étaient tous dans les trous, à essayer de chercher un peu de fraîcheur. Et si l'eau avait été plus basse, il y aurait toujours eu ces trous. Par contre, il n'y aurait plus eu cette nappe d'eau en plein cagnard, tu vois, qui coule en plein soleil. La nappe d'eau aurait été plus basse et donc elle aurait coulé sous le sable. Tous ces grands bancs de sable, ils sont hyper importants, ils sont essentiels parce qu'en réalité, ils mettent à l'ombre l'eau. Et ils la filtrent aussi. Donc, on aurait eu dans ces trous-là tous les poissons avec une eau qui arrive et qui a été fraîche, qui a coulé à l'ombre, qui a été filtré et qui vient alimenter ces trous. Donc c'est pas certain que ça ait été une cata. Et dans l'histoire du fleuve, c'est déjà arrivé. On sait qu'en 49, par exemple, il y avait 11 mètres cubes secondes à Gien. Donc les poissons étaient tous réfugiés dans des trous. Et en 50 ou en 51, il y avait du poisson. Et on pêchait du saumon, et on pêchait des aloses, parce que par contre, l'hiver, il y avait la crue. Donc en réalité, voilà, on a vite fait de s'arranger un peu des situations et nous présenter des solutions humaines qui sont en réalité pas des solutions, quoi. Enfin, c'est probablement un peu plus complexe. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faudrait qu'il y ait moins d'eau dans la Loire, évidemment. Il est évident qu'il pourrait y avoir plus d'eau. Et là, il y a un vrai sujet, parce que, en fait, si tu veux, la sécheresse qu'on a eue cet été, c'est pas seulement une sécheresse climatique. Et ça, c'est quand même important de le rappeler. La sécheresse qu'on a eue dans les cours d'eau, elle est liée à l'usage absolument délirant que Sapiens a de l'eau. On est complètement dopé à la flotte et il va falloir absolument revoir nos manières de distribuer. En fait, on se doit de partager l'eau, en fait, avec l'ensemble du vivant. On n'y a pas intérêt, nous-mêmes, on n'y a pas intérêt à s'accaparer totalement l'eau et à priver l'ensemble du vivant, l'ensemble des plantes, l'ensemble des animaux, des chevreuils. Voilà. On ne peut pas faire ça, en fait. On n'a pas intérêt à le faire.
Ce qui me motive à faire cette série sur l'eau, c'est le traumatisme que j'ai vécu en ce printemps 2022 en découvrant le mortifère scandale des méga-bassines. Une agro-industrie qui privatise un commun vital, je crois qu'on ne peut pas survivre plus de 3 jours sans boire, détourné, pollué, pour irriguer des cultures industrielles, notamment du maïs destiné à nourrir des bestiaux. On rappelle, un maïs qui n'est pas du tout une plante autochtone, qui a besoin de beaucoup d'eau. Et donc en mars 2022, il y a eu une manifestation à La Rochénard, près du marais Poitevin, contre les méga-bassines. On a été copieusement gazés, bon, ça c'est pour l'anecdote, sur la violence policière et l'État, ces pompes directement de l'eau dans des nappes phréatiques qui sont déficitaires dès le printemps pour privatiser une eau qui va servir à des cultures dont on peut remettre l'utilité et la pertinence en cause. Et je voyais naïvement le cycle de l'eau comme une chaîne. Oh là là, la méchante agro-industrie, en pompant dès le printemps dans des nappes déjà déficitaires, va casser un maillon de la chaîne, parce que cette eau qui sera plus dans les nappes ne pourra plus couler dans la rivière, et un jour on va se lever, il n'y aura plus d'eau au robinet. Or, c'est que c'est pas tant qu'il y a un maillon de la chaîne qui est attaqué, c'est que tous les maillons de la chaîne sont attaqués. Bon bah oui, c'est l'été, les touristes arrivent au bord d'un lac, ah merde, il n'y a plus d'eau dans le lac, on ne peut pas faire de pédalo, ou oh là là, vous vous rendez compte, on est obligé d'importer de l'eau sur l'île de Groix, ou d'envoyer des camions citernes au fin fond des villages de l'Ardèche. Mais ça, ce serait finalement qu'un des symptômes de tout le problème qui est global. Et ce qui est assez terrifiant, c'est que plus je m'intéresse à cette question, et plus je me rends compte que je sais rien, que c'est un merdier, toute la chaîne. Pour en revenir à ce que tu disais là à l'instant, il faut faire attention à la manière dont cette chose vitale est répartie, et aussi à la façon dont elle circule. Tu parlais non seulement des méga-bassines, mais ça peut être aussi la même logique sur les barrages. J'ai cru t'entendre dire que c'est absurde en fait de stocker l'eau, d'arrêter son cycle à un moment, de la retenir pour ensuite la relâcher. L'homme s'est acharné là pendant ce qu'on a appelé les soi-disant 30 glorieuses, qui seraient plutôt les 30 calamiteuses. On a transformé les cours d'eau, et c'était l'un des rêves de l'ancien maire de Tours, là, Jean Royer, qui voulait faire de la Loire un canal. On a beaucoup accéléré le cycle de l'eau, son écoulement, parce que cultiver dans des terres trop humides, c'est pas bon pour avoir du rendement. Canalisation des cours d'eau, destruction des zones humides. C'est pas bon, en fait, de bloquer l'eau à un moment pour la relâcher plus tard. Il faut qu'elle circule, mais peut-être moins vite. Donc, il y a déjà des solutions qui s'esquissent, hein. Reméandrer les rivières, recréer des zones humides ou les retrouver, conserver celles qui nous restent.
Si tu veux, je te propose d'essayer de partir un peu de peut-être comment moi j'ai construit mon raisonnement, aussi par l'observation. Quand tu te balades sur le fleuve, tu te rends compte assez vite que tu passes ton temps à regarder la berge, que les oiseaux, et je demande aux gens, mais dites-moi où sont les oiseaux? Et là, les gens se mettent à regarder le paysage et c'est très clair. Ils ne sont pas sur le banc de sable, ils ne sont pas au milieu de l'eau, ils sont juste à cette zone de limite entre l'eau et la terre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'écotone. C'est la zone de rencontre entre deux écosystèmes qui, là, sont assez importants puisque c'est l'écosystème aquatique et l'écosystème terrestre. C'est cette zone de rencontre entre l'eau, la terre et le soleil. Et en fait, toute la vie, elle apparaît à cet endroit-là. Et effectivement, il est absolument essentiel d'avoir une attention sur ces zones-là, ces zones de rencontre. Ce qui est vrai là, à l'échelle de la rivière, une rivière, c'est pas seulement un couloir d'eau. C'est un couloir d'eau, deux couloirs de vie. De chaque côté, à chaque fois que tu as une rive et une zone de rencontre entre l'eau et la terre, là, tu as de la vie. Alors si tu rajoutes une île, ça te fait quatre couloirs de vie. Et ce qui va être vrai à l'échelle comme ça de la rivière et qui est observable vraiment en allant se balader, ça va être vrai à l'échelle du monde aussi. Globalement, sur la Terre, la vie, elle apparaît du mélange entre l'eau, la terre et le soleil. Et si je dois schématiser ça, on va dire qu'on a l'eau, c'est l'océan, la terre, c'est la montagne, et si tu regardes au milieu du désert, bah oui, on a la terre, on a le soleil, mais il n'y a pas l'eau. Et si tu rajoutes un petit peu d'eau, hein, ça peut arriver, un affleurement de nappe dans le Sahara, ça devient une oasis. C'est l'explosion de vie. Au milieu de l'océan, t'as de l'eau, t'as du soleil, bah oui, mais il n'y a pas la terre. À la limite, au fond, tu vas trouver la terre, mais il n'y a plus le soleil. Le milieu de l'océan, c'est la productivité du désert. Il n'y a rien. Il y a des zones d'oasis, comme au milieu du désert, il y a ce qu'on appelle des zones d'upwelling, c'est des sortes de courants marins qui vont remonter des sédiments à la surface et qui vont faire des explosions de vie. C'est quelques endroits comme ça au milieu de l'océan. Mais globalement, la vie sur la planète, elle se fait sur les côtes. Donc de la même manière que sur la rivière, la vie, elle se fait sur les rives, sur les berges. Alors, qu'est-ce que c'est la côte? La côte, c'est cette zone donc, de rencontre entre l'eau et la terre, mais il se trouve que, par exemple, ici, à l'échelle de la planète, si tu veux, on est sur la côte. D'ailleurs, on parle d'un climat océanique qui est directement, immédiatement lié à ce mélange comme ça de ces deux milieux, de cet océan et de cette montagne. Et c'est ça le cycle de l'eau. Alors, C'est assez incroyable de comprendre à quel point cette matière est absolument fascinante. Hein. L'eau, c'est l'exception qui fait la règle. Elle est capable, à nos températures terrestres, d'être solide, liquide et gazeuse. C'est le cas de tous les minéraux, il n'y a pas de problème. Sauf que voilà, le sable, hein, il est rarement liquide, si tu veux, ou alors tu es dans une fonderie de verre. À nos températures terrestres, non, il n'y a vraiment que l'eau qui est capable d'être solide, liquide et gazeuse, et qui, du coup, elle va avoir cette compétence incroyable d'être mobile et de mettre en lien. C'est le moteur de notre écosystème. Le gasoil étant le soleil, d'accord ? Le soleil va chauffer, va permettre l'évaporation. Et puis cette évaporation qui se fait au-dessus des océans, il faut savoir que l'essentiel de l'eau qui s'évapore retombe dans l'océan. 99% de l'eau qui s'évapore au-dessus de la mer retombe dans la mer. Mais par des phénomènes climatiques qui sont liés à la rotation de la planète, qui font des grands vents, on a une chance absolument incroyable ici en Europe et en France, c'est qu'on a des vents régulièrement d'ouest. Ça, c'est le bonheur quand tu es marinier, parce qu'évidemment, c'est celui qui va te permettre de remonter le courant. Mais c'est le bonheur aussi parce que c'est ces vents-là qui vont nous amener l'eau sur Terre. On a une chance incroyable. C'est pas le cas du tout au Sahel, par exemple. D'ailleurs, les marins, quand ils veulent traverser l'Atlantique, ils vont descendre au niveau des latitudes de la Mauritanie pour choper les alizés, pour traverser. Parce que là, les alizés, c'est un vent qui va donc de l'est vers l'ouest. Donc, ce sont des vents d'est qui vont te faire traverser l'Atlantique. Ben, c'est une chance pour le Costa Rica. C'est un peu moins de bol pour la Mauritanie. C'est-à-dire qu'eux, ils voient bien les nuages monter au-dessus de l'océan, mais ils les voient partir de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est pour ça qu'on a le Sahara. Après, tu as le poteau noir quand tu es au niveau de l'équateur. Et puis, si tu descends encore, tu vas avoir la Namibie. La Namibie, c'est un banc de sable qui tombe dans la mer. L'eau, pareil, va traverser l'Atlantique et va aller au Brésil. Donc, d'un côté, tu as la Namibie, un désert total, et de l'autre côté, tu as le géant mondial de l'eau, hein, le Brésil. Le cycle de l'eau, c'est parfois les nuages sont repoussés vers la Terre. Et donc on a cette chance-là en Europe d'avoir un peu plus de pénétration de l'océan sur la Terre. Tous ces nuages, c'est l'océan qui est en train d'aller vers la Terre. Ça, c'est un premier élément. Voilà, les nuages avancent et puis quand ils rencontrent la Terre, ils vont être obligés de monter en altitude. Et l'air chaud va pouvoir emmagasiner beaucoup plus d'eau que de l'air froid. Et donc quand le nuage monte, il se refroidit. Et en se refroidissant, il perd sa capacité à retenir l'eau. Donc en montant en altitude, bah, il va décharger cette eau et donc il va se mettre à pleuvoir. Moi je l'avais observé à Ouessant, sur l'île d'Ouessant, qui est à 11 km de Brest. À Ouessant, tu as une pluviométrie annuelle de 750 mm d'eau. À 11 km de Ouessant, tu as Brest. À Brest, il y a 1500 mm d'eau. C'est-à-dire c'est plus du double. Comment c'est possible? Tout simplement parce que les nuages vont passer autour de l'île, mais le massif de l'île ne fait pas monter les nuages. Donc en fait, il y a une hygrométrie énorme, mais il ne pleut pas, très peu de précipitations. Quand tout d'un coup les nuages arrivent sur la côte, là à Brest, tu vois, il y a un peu de hauteur, ça monte et il se met à pleuvoir. Admettons que donc cette eau arrive sur le territoire, et alors là, tu te rends compte que la France, c'est quand même un jardin de cocagne. Hein. En termes d'eau, c'est énormément irrigué, puisque c'est vachement bien foutu. On a des montagnes tout autour, les Alpes, les Pyrénées, le Jura. Et puis, on a en plus au cœur du territoire, le Massif central. Donc on va avoir des nuages qui vont arriver, qui vont petit à petit monter, et à chaque fois que ça monte, hop, ça décharge de l'eau. Et puis ça arrive sur le Massif central, et là, pof, ça décharge de l'eau sur la Corrèze. Alors évidemment, quand tu arrives de l'autre côté, dans les Cévennes, bon, c'est un peu, les nuages sont bien déchargés. Mais ensuite, ils vont arriver sur les Alpes, et là, ça monte encore. Et donc, on a vraiment différents tremplins comme ça, différents, c'est une sorte de rampe, ça monte, et hop, et ça, à chaque fois, ça décharge. On a des châteaux d'eau, parce que la montagne, c'est véritablement un château d'eau. Ça va être vraiment la même fonctionnalité, c'est-à-dire que ça va faire monter l'eau et ensuite, avec la gravité et la pente, ça va réirriguer tout le territoire. Ça déjà, c'est quand même intéressant de se rendre compte de la situation absolument exceptionnelle en fait. Enfin, comprendre à quel point on a un territoire qui est précieux et que tout ça, ça fonctionne, mais ça fonctionne parce qu'il y a un ensemble d'éléments, de hasard qui font que ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, quelles vont être les fonctions de cette eau-là qui vont ensuite donc descendre de la montagne vers la mer? Il y a plein de fonctions, mais c'est intéressant de prendre de la hauteur. Repartons des bassines.
Je ne voulais pas te couper, mais tu disais voilà, ça fonctionne, ça a fonctionné plutôt bien. Ce, depuis des milliers d'années, Et d'ailleurs, nos anciens sont très bien accommodés. Enfin, jusqu'à ce délire productiviste, faut faire de grandes étendues plates pour faire passer des grosses machines agricoles, machin. Donc, on arrache le bocage, on comble les fossés pour faire des grandes parcelles où les gros engins peuvent passer. On a détruit des zones humides, on a détruit des éponges naturelles. Enfin, quel gâchis! Je vais reciter mon père qui un jour a vu un ministre de l'agriculture de De Gaulle, Pisani. Le mec, il pleurait quasiment à l'antenne en disant « Écoutez, on était dans un délire productiviste, on croyait là pendant les soi-disant 30 glorieuses qu'on vous apportait la solution miracle pour que plus jamais on crève de faim. » Il faut dire que les gens étaient traumatisés par les pénuries de l'occupation. Hein. C'est pour ça qu'ils se sont mis à bouffer de la viande tous les jours. C'est qu'ils n'en ont tellement pas mangé entre 40 et 44. Cela dit, ils n'en mangeaient pas beaucoup avant non plus. Forcément, c'était un plat de fête. Je n'ai pas vu le document en question, là, mais mon père m'a dit « J'ai vu Pisani, ministre de l'Agriculture de Gaulle, il pleurait à la télé quasiment en demandant pardon. » Pardon, on a tout saccagé.
Pisani est un homme qui a, je pense, énormément réfléchi et qui avait un ensemble d'éléments pour pouvoir comprendre ça. Je me dis, merde, je suis en train de partir en live à vous réexpliquer, à te reparler du cycle de l'eau. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mec qui fait une bassine sur son champ, il a une certaine logique. Pourquoi le mec, il fait ça? Et pourquoi on s'est mis à foutre des enclos? Et pourquoi on s'est mis à foutre des drains partout dans le champ? Et pourquoi... Il y a des systèmes de pensée qui ont amené à ça.
Je suis passé par l'OCUP et le fait que les gens en moyenne entre 40 et 44 ont perdu 12 kilos. Et les tickets de rationnement ont duré en France jusqu'en quasiment l'orée des années 50. Donc il y a eu cette frénésie de consommation et notamment de consommation de viande pour oublier les années noires, pour se donner un sentiment d'opulence. Donc voilà, quand tu parles de raison, de logique économique, mais aussi de traumatismes nationaux, pénurie, crever de faim, ça a engendré des comportements, des logiques, entre guillemets. D'ailleurs, c'est ce que certains exploitants de l'agro-industrie peuvent dire. Nous, on nourrit le monde. On bouffe trop de viande, quoi. Dans les années 30, les gens mangeaient pas tant que ça. Je reviens à nos bassines, ces bassins de rétention d'eau qui devient privée alors qu'elle était commune juste avant. Essentiellement, c'est pourquoi ? C'est pour irriguer du maïs destiné à nourrir des bestiaux qui vont être transformés globalement en hamburgers. Est-ce qu'on a besoin de bouffer de la viande tous les jours ? Non.
C'est évident qu'il faut retravailler notre rapport à la viande. Vraiment, je pense que la viande et l'élevage est à la fois le problème et la solution. Et c'est pour ça que c'est intéressant, si tu veux, d'amener dans l'ensemble des données, l'ensemble des informations et de ce qui nous amène à construire un argumentaire, une justification de nos actes, d'amener ces bases d'écologie et d'hydrologie. Parce que le problème, je pense, c'est que on a été déconnecté de ces fonctionnalités, en fait. Et à quoi ça sert une rivière ? Comment ça fonctionne dans la nature ? Et c'est compliqué d'expliquer l'ensemble des conneries qu'on a faites. Rapidement, j'essaye de balayer les quatre grandes dimensions de la rivière. Parce que, si tu veux, pour moi, c'est important, plutôt que d'expliquer ce qui ne va pas, d'expliquer comment ça fonctionne dans la nature.
Donc, revenir à ma question, pourquoi est-ce que ce n'est pas bon d'arrêter le cycle de l'eau à un moment, soit en la stockant derrière un barrage, soit dans une méga-bassine ou autre?
Plutôt que de dire « c'est mal de faire ça », comprenons comment ça fonctionne dans la nature, et quand tu te rends compte de comment c'est bien foutu, alors tu te dis, ben non, ben évidemment qu'on va pas aller toucher à ça. Et à la rabouille, moi je m'évertue à ça, et juste présenter le miracle quand même de cette organisation de l'écosystème. Et après, je pense que à chacun de voir ce qu'il y a de bon à faire, mais je pense que les choses deviennent un peu claires. D'abord, en écologie, on considère qu'une rivière, il y a quatre dimensions. C'est pareil, hein, tout ça c'est des visions anthropocentrées, mais on a essayé de comprendre un peu comment fonctionne l'écosystème. Et donc, on parle de quatre dimensions. La dimension longitudinale, transversale, verticale et temporelle. Je vais essayer de les passer rapidement en revue. On a déjà commencé sur la dimension longitudinale. C'est cette notion de connexion entre la montagne et la mer. Ça paraît un peu poétique de dire « oui, faut que la montagne et la mer se rencontrent ». Je ne sais pas si le soleil a rendez-vous avec la lune. Ce qui est certain, c'est que la montagne a rendez-vous avec la mer. Pour que la vie puisse s'opérer, il va falloir que la montagne soit digérée, transportée jusqu'à l'océan. Alors quand je dis digérée, c'est transformée en argile. hein, puisque en gros, quand tu parles juste des minerais, hein, de la roche, on va parler d'abord des gros blocs de roche que tu as en montagne qui vont être fissurés avec le gel, qui vont se fracasser, qui vont être embarqués en plusieurs gros cailloux, qui vont eux-mêmes devenir des graviers, qui vont embarquer par la rivière, devenir petit à petit du sable. Et puis ce sable va être transformé, affiné encore en limon, pour finir en argile. C'est absolument essentiel que cette montagne devienne de l'argile. En tout cas, elle est plus digeste quand elle devient de l'argile. Et elle devient argile au niveau des estuaires, à peu près. À cet endroit-là, tu vas avoir la rencontre entre l'eau, l'argile et le soleil. Et donc, la vie apparaît dans les estuaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette rivière, elle a une fonction principale qui est de nourrir l'océan. Quand je te parlais des prismes et des regards, tu vois, et il y a un petit parallèle avec le mec qui fait des bassines. Le mec qui fait des bassines, il dit « moi, j'ai besoin d'eau pour faire mon maïs ». Le mec qui gère la politique de l'eau au niveau de la métropole de Tours, il dit « moi, j'ai besoin de l'eau pour nourrir ma population ». Et si tu prends encore un peu de recul, tu dis « non, attends, la rivière, elle ne sert pas seulement à faire pousser du maïs ou à nourrir la population tourangelle en eau, elle sert aussi à nourrir l'océan ». Et tout dépend des prismes auxquels tu prends les choses. Cette eau comme ça, elle va emmener, elle va transporter. Alors c'est Léonard de Vinci qui disait « L'eau érode les montagnes, comble les vallées. Si elle le pouvait, elle ferait de la terre une sphère parfaite. » C'est effectivement extrêmement juste. L'eau comme ça aplanit la terre. Je ne suis pas en train de dire que la terre est plate, attention. Mais en tout cas, elle va écraser comme ça ces montagnes et elle va transformer complètement et emmener cette montagne à l'océan pour nourrir l'océan. C'est une des fonctions essentielles. Peut-être la première, si on devait les hiérarchiser, du système hydrique, du cycle de l'eau, de cette rotation. Comme une pelle mécanique là, qui va aller chercher la montagne et qui la ramène dans l'océan pour nourrir l'océan. C'est hyper important. Cette année, par exemple, la sécheresse, elle a été problématique dans les champs, elle a été problématique pour la ressource en eau, mais elle a été aussi extrêmement problématique en mer. Parce que l'océan se nourrit de ces rivières. Si on a des poissons dans le golfe du Gascogne, c'est parce qu'on a la Seine, la Loire, la Gironde, voilà, qui viennent alimenter comme ça avec des sédiments cet océan. Donc ça, faut pas le perdre de vue parce que la vie, elle apparaît de l'océan quand même au départ. Hein. Ensuite, cette rivière, elle va avoir, et c'est marrant de rebondir justement sur cette évolution du granulat, du gravier, on va dire, jusqu'à l'argile, parce que ça a une deuxième fonction qui est de fournir de l'eau potable. Effectivement, l'accès à l'eau, au départ, c'est dans la rivière. Avant que l'homme comprenne qu'en faisant un trou, on trouvait de l'eau, et qu'on aille donc puiser, faire ce prélèvement à la source là, directement forêt dans la nappe, l'eau des nappes, l'eau du territoire, elle apparaît dans la rivière. Et effectivement, la rivière, c'est l'accès à l'eau potable pour tous les animaux déjà. On va pas être complètement anthropocentré, mais disons animaux-centré. C'est-à-dire que je mets de côté tout le végétal. Le végétal, lui, c'est l'eau qui tombe de la pluie. Hein. Le végétal, il va pas à la rivière avec son petit seau pour chercher de l'eau. Disons que la végétation va se nourrir de l'eau de pluie, mais la plupart des animaux, certains animaux en tout cas, vont dans la rivière pour chercher l'eau. Il y a des animaux qui vont réussir à s'abreuver en mangeant juste les feuilles ou l'herbe. Les chèvres, par exemple, ont très peu de besoins en eau directe. Elles arrivent à extraire l'eau de l'alimentation. Mais certains animaux, et Sapiens en fait partie, sont directement inféodés à la rivière. Ça, j'ai compris ça avec Michel Philippe, qui était conservateur du musée du Grand Précigny, qui est dans la recherche expérimentale, c'est-à-dire qu'il a passé sa vie à tailler des silex, et puis aujourd'hui, il passe son temps de retraite à fabriquer des curacs, des sortes de bateaux, et qui nous expliquait que Sapiens a inventé le bateau, mais bien avant la roue. L'organisation de Sapiens sur des milliers d'années, c'est un système familial, un peu élargi, comme une meute de loups à peu près. T'as la famille proche, les enfants, et puis il y a aussi un peu les cousins et tout ça, et tous ces sapiens se déplacent le long des rivières. Pour une raison simple, c'est que chaque jour, ils vont à la rivière. Et donc pendant des milliers d'années, toute la circulation des humains se fait le long des rivières parce que c'est l'accès à l'eau. Et donc, si tu veux, c'est le cas pour sapiens, mais c'est le cas pour aussi tout un tas d'animaux qui vont aller dans la rivière pour boire de l'eau potable. faut savoir qu'on a des engagements européens aujourd'hui, notamment une directive cadre sur l'eau qui est censée aboutir au bon état écologique des fleuves en 2015. Qu'est-ce que c'est le bon état écologique ? Ben, c'est de l'eau potable. Si l'eau elle n'est pas potable, ça veut dire qu'elle n'est pas en bon état, puisque l'homme a besoin d'eau potable, déjà. Mais l'ensemble des autres animaux ont besoin d'eau potable. Il n'y a plus que l'homme qui boit de l'eau potable aujourd'hui. Il n'y a que l'homme qui fait des forages, qui fait des châteaux d'eau. Les animaux, pour boire, ils vont à la rivière. Et donc, la rivière, elle se doit de produire de l'eau potable. Et pour ça, elle va mettre en place un filtre qui évolue petit à petit de la source jusqu'à l'estuaire. Quand l'eau sort de terre, a priori, elle est pure. Mais à fur et à mesure qu'elle s'éloigne de la source, il va y avoir de plus en plus de kilomètres linéaires de berges, d'arrivée de matière organique, de nourriture, mais aussi de pollution. Si tu veux un renard crevé, ça va être de la nourriture pour les écrevisses, mais enfin, ça va être aussi, si c'est un peu trop chargé, de la pollution. Et donc, petit à petit, à fur et à mesure qu'on s'éloigne de cette source, on va avoir une évolution du substrat, du granulat, qui va passer du gravier au sable, au limon, aux argiles, et qui sont des filtres de plus en plus performants. Petit à petit, le gravier va filtrer un peu, mais le sable de manière beaucoup plus performante. Et le meilleur filtre, ça va être l'argile qui est extrêmement fin. Alors par contre, ça prend énormément de temps. Donc l'eau, elle doit être potable de la source à l'estuaire. Il n'y a pas de raison que les mecs à Saint-Nazaire, ils n'aient pas de l'eau potable. Et d'ailleurs, quand on a le petit bout du reste de marais Poitevin qui nous reste, avec donc ces grands marécages qui vont fournir de l'eau potable, on va trouver notamment de la loutre. On a de la loutre dans le marais Poitevin. Donc on en a dans les petites rivières à truites de Creuse, mais on en a aussi jusqu'à Laval, pour peu qu'on ait su préserver cette dynamique, ce fonctionnement en fait de l'écosystème. Et là on se dit, mais waouh quoi. Waouh, comment qu'ils ont quand même... Alors je sais pas moi, Gaïa, le grand ordonnateur, je sais pas qui c'est qui est à la manœuvre là, mais franchement, ça a été fait d'une manière tellement maligne et tellement optimale.
L'intelligence de la vie, c'est un truc qui régulièrement me fait douter de la non-existence de Dieu.
Ouais, c'est scotchant, c'est scotchant.
C'est bien foutu la nature.
C'est incroyablement bien foutu. Et si tu veux, il n'y a jamais une chose qui ne sert qu'à une chose. Tout sert à plein de choses. Et je pense qu'il y a une vraie leçon à apprendre, nous, là, en tant que sapiens, n'ayons pas des visions trop serrées. C'est exactement le problème, pour revenir, des exemples plus concrets peut-être, mais toi, le problème des... aujourd'hui, de certains paysans, de certains modèles agricoles, c'est que les mecs, ils ont la sensation qu'ils ont un bout de terrain pour produire de la bouffe. Mais ce bout de terrain-là, il ne produit pas que de la bouffe. Il produit aussi de l'eau potable. Parce que ce bout de terrain, il va recevoir, c'est un réceptacle de notre climat et de notre pluie. Et donc, selon les pratiques agricoles, la végétalisation ou le labour, le drainage... on va avoir un terrain qui va pouvoir produire de la nourriture, mais aussi produire de l'eau. Et c'est quand même absolument essentiel. Alors quand je dis produire, évidemment, l'eau, on ne la produit pas, mais je veux dire, on va pouvoir accueillir l'eau, la faire descendre dans les nappes, la protéger, parce que les nappes, c'est la seule manière de protéger l'eau et de la stocker. Je veux dire, on ne stocke pas de l'eau au soleil, c'est une évidence, mais c'est tellement fou d'imaginer stocker l'eau en plein cagnard. On voit bien les développements de bactéries, les trucs qui sont... l'eau, elle est dégueulasse. Moi, j'attends qu'ils organisent des concours de pêche dans leur bassine. Il n'y a pas un poisson qui peut vivre là-dedans, c'est transformé. C'est tellement un mauvais usage du monde.
Puis dans les bassines, elles s'évaporent pour faire des nuages dont on ne sait pas trop où ils retombent non plus.
Et bien sûr, et pour revenir, si tu veux, à cette notion de circulation, là, si on veut avoir une terre productive de vie, la seule manière de le faire, c'est qu'il y ait des zones de mélange entre l'eau, la terre et le soleil. C'est là que c'est productif. Le truc, c'est qu'en plus, si tu veux, c'est paradoxal, c'est qu'ils ont l'impression d'être productifs. Mais non, c'est-à-dire quand tu ne produis que de la bouffe, t'es pas très productif sur un champ. Sur un champ, t'es productif quand t'arrives à produire et de la bouffe, et des paysages, et de l'eau, et de la biodiversité. Alors là, t'es productif. C'est en ça que, je veux dire, les modèles, et là, effectivement, on se confronte à des modèles qui, voilà, entre des modèles de l'agriculture biologique, de cette dimension, on va dire, plus paysanne, avec une complexité une vision un tout petit peu holistique, un peu globale de l'écosystème, ou alors une vision complètement réduite, en fait, complètement serrée, quoi, de ses bas du front, un peu, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible. Alors, évidemment qu'il y a tout un tas de raisons, qu'il y a des pressions, qu'il y a des endettements, qu'il y a tout ça, mais on a chacun nos problèmes. Mais l'humanité, quoi, l'ensemble des gens, des penseurs, on se doit quand même d'être un peu plus malin que ça, quoi. Et un peu plus, surtout, consciencieux de notre milieu. L'autre fois, j'ai eu une conférence, là, et le mec, il nous dit « L'eau doit servir à payer l'eau. » Et ça choque personne, quoi. Le mec, il explique ça, et bah oui, on était sur les réseaux d'eau, et donc le fait que t'achètes l'eau au robinet, bah, ça va permettre de payer l'épuration. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas l'argent pour payer l'eau n'auront pas l'eau. On peut se dire « Ouais, mais bon... c'est des flemmards. » Il y a plein de justifications plus ou moins insupportables pour imaginer que certains n'aient pas les moyens de se payer l'eau. Mais quand on pense à un chevreuil ne sera jamais solvable. Donc à partir du moment où on imagine que l'eau doit être un bien qui doit être financé, alors ça veut dire qu'on est prêt à s'accaparer l'eau de manière complètement anthropocentrée, c'est-à-dire à priver l'ensemble du vivant de l'eau. Et là, ça ne marche plus. Donc on se rend bien compte que cette logique capitaliste de ressources se confronte à une limite tout simplement qui est celle de la vie et de notre vie. Il y a un éducateur environnement qui s'appelle Joseph Cornell qui dit un truc qui est tellement juste. Il dit « En se rapprochant de la nature, on se rend compte que l'objet de notre propre étude n'est pas la nature en soi, mais la vie. » Et notre propre nature. Il a tout dit. Moi, je défends pas la nature parce que je suis quelqu'un d'altruiste. Je défends la nature parce que j'ai compris à quel point je fais corps. Toi, ce slogan, nous sommes la nature qui se défend, mais évidemment qu'il faut comprendre à quel point on est cet écosystème-là. Quand tu mets de côté, quand tu bouleverses ces cycles-là, c'est des bouleversements qui nous touchent, forcément, qui nous touchent dans nos corps. Bah, c'est un peu dommage, ça fonctionne tellement bien. C'est tous ces aménagements-là qu'on imagine être des progrès. Pour reprendre l'exemple du barrage, le barrage c'est une prothèse, mais tu vas pas demander à un mec qui a ses deux jambes de lui couper une jambe pour lui mettre une prothèse. Putain, il a ses deux jambes, laisse-le courir. Le cycle de l'eau, c'est une fonctionnalité qui est tellement bien foutue, qui est tellement merveilleuse. Et il y a eu un usage globalement du monde par nos anciens qui est hyper fine, tu vois, pour parler de ces divers usages. Le fond de vallée, un fond de vallée, c'est une station d'épuration. Quand tu vois une île avec du sable, du gravier, des carex, des joncs, c'est ni plus ni moins une station d'épuration, là, les stations high-tech, la phyto-épuration, c'est ni plus ni moins un fond de vallée reconstitué. Alors les anciens, dans ce fond de vallée, ils allaient mettre des bêtes à pâturer. Mais c'est malin. Et là, il y a du sens à faire de l'élevage. Il n'y a que de l'herbe qui pousse, tu ne peux pas vraiment en faire du céréal. Eh ben, mets des bêtes. Sans être passéiste, mais pour revenir sur l'usage que l'homme a eu depuis le néolithique, à partir du moment où on a commencé à cultiver, ce qui pourrait aussi poser question, est-ce qui est bien à l'origine du capitalisme, justement, donc avec ses limites et ses justifications, on va dire. Oui, le capitalisme est forcément né de ces climats avec des saisons. Nous, en Europe, on a une saison rude. On a une période où il n'y a plus rien à bouffer sur le territoire. Et donc, soit tu te balades et tu suis les troupeaux, et dans ce cas-là, tu deviens un animal migrateur. Soit tu décides de te fixer sur le territoire, et dans ce cas-là, il faut préparer l'hiver. Et il faut stocker, et il faut capitaliser. Et c'est les choix qu'ont fait nos ancêtres, à un moment donné. Certains, pas tous, mais certains, ont choisi de rester sur place. C'est assez marrant d'ailleurs si tu fais le parallèle avec les martins-pêcheurs. Les martins-pêcheurs, c'est pareil, c'est un oiseau qui va être pour certains migrateurs et pour d'autres sédentaires. Deux stratégies. Eh ben, les humains, t'as les manouches qui vont descendre dans le sud de la France en hiver parce que quand tu vis dehors, c'est quand même plus agréable. Il y a différentes stratégies. En tout cas, Sapiens a envisagé les différentes stratégies. Quand tu dois donc vivre à l'année sur notre territoire, il va falloir bien valoriser l'espace parce qu'il va falloir préparer des stocks pour l'hiver. Si tu as une terre qui peut, alors tu fais du grain. Parce que le grain, il se stocke. Tu vas faire des silos, tu vas faire des systèmes, voilà. Et donc, dès que tu peux, tu fais du grain. Pour ça, il faut des sols qui soient un peu particuliers. Pas trop humides, pas trop secs, qui soient les sols les plus riches en réalité. Et puis dès qu'on n'arrive pas à faire du grain, du blé, de l'orge, on va mettre les bêtes. Parce que c'est une manière de valoriser ce terrain quand même. Et donc l'élevage, hein, c'est un peu le parent pauvre au départ. Alors je parle notamment des chèvres sur les affleurements calcaires. Et là, il y a trop la roche, il n'y a pas assez de sol, il n'y a pas assez de terre, c'est un bout de caillou, ben, on met les chèvres. Ou les fonds de vallée, où là c'est trop humide, c'est trop sableux aussi, donc ça va être sec l'été, trop humide l'hiver. Donc là, on va mettre les vaches et les moutons. Donc on avait un usage comme ça des territoires. Et puis, il y a eu cette logique de dire, mais non, mais grâce à la technique, on va pouvoir faire plus de grains. Vous voyez, parce qu'on a dit, ce qui avait de la valeur, c'est le grain. Tu peux le stocker, le capitaliser, tu peux attendre que les gens aient faim avant de vendre. Parce que c'est quand même ça, hein, le principe des coopératives, hein, c'est d'attendre que le blé monte avant de le vendre. C'est plus facile à stocker que des bêtes, parce que les bêtes, tu peux les flinguer, les foutre au congèle, mais c'est compliqué, tu vois. Et si tu attends trop, ben, elle risque de maigrir, il faut continuer à la nourrir. Enfin, tu vois, c'est pas le même système, tu peux moins bien capitaliser sur la viande. Donc, on fait dès qu'on peut du blé. Comment on fait ça? On va gagner sur ces zones humides, notamment, en drainant, en séchant ces zones humides, et en se disant, ben, c'est pas grave, on va taper dans la nappe pour remettre juste ce qu'il faut d'eau. Et ça fonctionne. Putain, les mecs, ils ont explosé les quintaux. C'est-à-dire qu'ils avaient des zones de prairie où ils produisaient vaguement de la vache, toi et du mouton, et là, ils arrivent à faire du blé. Il n'y a pas de problème. Ils font du blé. Le problème, c'est que, bah oui, mais si tu vires les zones humides, ces zones humides dans lesquelles on faisait des vaches, c'était pas seulement pour faire des vaches. C'était des zones de station d'épuration. C'était des puits de captation du CO2 aussi d'ailleurs, hein, aujourd'hui ça... Et c'était surtout des connexions avec la nappe. C'est-à-dire que tant que la terre n'est pas saturée en eau, alors l'eau ne va pas descendre vers la nappe. Parce que l'eau, elle ne descend pas comme ça, hein, dans la nappe. Il faut lui appuyer dessus. Ce n'est pas facile d'appuyer sur de l'eau. Donc, en fait, il faut qu'il y ait de l'eau par-dessus l'eau pour que ça puisse faire descendre. Voilà, c'est vraiment ces zones un peu saturées en eau qui vont faire descendre l'eau vers les nappes. Donc, il faut des zones humides. Sauf qu'on les a drainées. On les a drainés, on compte sur les nappes, mais il n'y a plus d'arrivée dans les nappes. Donc si tu veux, on est sur un système où aujourd'hui les rivières s'assèchent, non pas à cause de l'évolution du climat, à cause des pratiques agricoles depuis 40 ans. Le problème du climat n'est pas encore arrivé. Alors elle commence tout juste à arriver, 2019, cette année. Mais en fait, la sécheresse, elle est structurelle, elle est bien plus ancienne, elle est liée à nos pratiques agricoles depuis 40 ans. Maintenant, en plus, on a le problème du climat qui arrive. Et ce qui est dramatique, c'est qu'ils vont nous expliquer que parce qu'il y a les problèmes du climat, que ah ben, la sécheresse, c'est à cause du climat. Mais non, non, non. Mais donc, l'idée, c'est de faire des bassines pour répondre aux problématiques climatiques. Alors que non, on n'est pas encore dans les problèmes climatiques. On commence là, à les toucher vraiment. Mais bon, il y a vraiment un enjeu au niveau des pratiques et de cette vision complètement extractiviste en fait, de l'eau qui est assez dramatique. Parfois, hein, je me suis posé la question, mais quelle légitimité on a à forer dans la nappe, à aller chercher l'eau de la nappe comme ça. Quand on y va avec un seau, bon là ça va, tu vois, on est raisonnable. Et dès qu'on est avec des moteurs et des machines, là on a des capacités qui dépassent l'entendement, qui dépassent la capacité de tolérance des écosystèmes. Normalement, si on ne va pas forer dans la nappe, ça ne veut pas dire que c'est de l'eau perdue, parce que cette eau, elle va couler et elle va arriver dans la rivière. Donc, moi, je trouve que c'est bien de préserver ces rivières, parce que ces rivières, elles, la Loire a fortiori, mais c'est un espace collectif, un collectif élargi. Tout début de discussion, là, on a parlé du pélio et on a parlé de ces espaces communs. À force de naviguer sur ce fleuve, j'ai compris à quel point le fait d'avoir un espace comme ça, qui appartient à tout le monde et à personne, qui nous appartient à tous, sapiens, mais aussi autre que sapiens, si tu veux, cette logique-là, elle amène à habiter ensemble le territoire. Quand j'arrive avec des bateaux comme ça sur le fleuve, là, j'ai un accès à un bien qui peut faire baver plus d'un, tu vois, et se dire, mais waouh, putain, et l'autre, il a un bateau. Nous, l'association, on vit, on exploite économiquement le fait de pouvoir être usager de cet espace-là. Il faut être un peu fin quand tu veux exploiter un espace commun. Je ne suis pas chez moi ici, je ne suis pas chez moi sur le fleuve, je suis chez nous. Et donc, je ne peux pas me permettre d'être un sagouin. Je suis obligé d'être dans un respect, d'abord, du regard. Je ne suis pas censé heurter le regard des autres humains, mais aussi du castor. Ça m'oblige à envisager des actions et une manière d'habiter le territoire qui soit acceptable, de mon point de vue. Hein. C'est l'idée que je me fais, mais je m'efforce d'être acceptable. On manque d'espace commun, cruellement, et la Loire nous fait cette démonstration-là. Le cumul des intérêts privés ne peut pas faire l'intérêt commun. C'est pas vrai. En tout cas, la rivière nous fait cette démonstration-là. Ce qui fait la richesse du fleuve, c'est ses rives, c'est ses berges, c'est ses zones d'érosion, parfois, et ses zones d'accumulation à d'autres. C'est-à-dire que tu as des berges qui sont très raides, et l'eau vient creuser la berge. Et elle vient creuser, on voit les racines à nu, tu vois, les arbres qui ont les racines là un peu dans le vide et qui finissent par s'écrouler dans la rivière, ce qui va être l'occasion pour plein de poissons de venir s'alimenter, pour des oiseaux de se percher dessus. Enfin bon, c'est extrêmement dynamique, ces berges-là comme ça qui s'effondrent. Mais ça veut dire que le propriétaire de la berge est en train de perdre sa berge. Ça veut dire que le propriétaire de l'île est en train de perdre l'île. Heureusement, on a de nombreuses îles qui sont publiques. Ce qui fait que oui, nous sommes en train de nous faire déposséder de nos îles par la rivière. Mais n'a-t-elle pas le droit de venir nous piquer cette île? De toute façon, ne nous inquiétons pas, elle creuse d'un côté, mais elle va redéposer de l'autre. Et donc si tu veux, le fait que ce soit globalement des îles qui appartiennent à tout le monde, ça pose pas de problème. Si tu avais une île qui appartenait à Pierre et l'autre qui appartient à Jacques, clairement, y a un des deux qui est lésé. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va fixer la berge, foutre des enrochements, foutre du béton, voilà. Et s'il fait ça, c'est le début de la fin pour la rivière. Clairement, là, la logique de la propriété privée ne fonctionne pas avec l'écosystème rivière. Je crois qu'elle ne fonctionne pas avec l'écosystème tout court. Alors ouais, je vais faire mon punk, hein, la propriété c'est du viol, peut-être. Le territoire, par contre, a du sens. Tu vois, dans un écosystème, les animaux ont un territoire. Tu vois le rouge-gorge qui est là, qui se balade, hein, il a un territoire. Donc, la notion de territoire, bien sûr. La notion de propriété, elle interroge d'autres choses. En tout cas, je pense que l'écologie, le milieu, enfin, cette nature-là, c'est une Bible à ciel ouvert, en fait. Elle a tellement à nous apprendre. Et prenons le temps d'essayer de comprendre ce fonctionnement-là. Inspirons-nous de ça, quoi, tu vois. Pour comprendre voilà, des choses aussi simples que, oui, l'eau, si elle est au soleil, elle s'évapore. oui, l'eau, elle a plein de fonctions. Elle ne sert pas que à alimenter les sapiens en eau, même si c'est absolument essentiel. Tout ça, ça a été réfléchi. Globalement, l'agence de l'eau hein, a hiérarchisé hein, les besoins, donc avec une vision un peu anthropocentrée, évidemment, quand même. Mais c'est-à-dire qu'il considère que la première fonction de l'eau, hein, il considère que c'est l'alimentation en eau pour les hommes. La deuxième fonction, c'est les écosystèmes. Et la troisième fonction, c'est l'eau ressource pour les industries ou pour l'agriculture. C'est bien dans ce sens-là hein, que globalement, notre politique européenne a défini la hiérarchisation des accès à l'eau. Donc, on ressasse hein, toutes ces réflexions-là, elles existent depuis longtemps. Simplement, c'est important de les rappeler, parce qu'en fait, il y a eu un travail remarquable de fait dans les années 70, notamment hein, sur la gestion de l'eau. Évidemment, il faut réinterroger les choses, mais j'ai l'impression que devant les évolutions climatiques, ben, on réinterroge les choses avec... Ben, certains qui se disent « Ah ouais, peut-être qu'on pourrait envisager d'élargir un tout petit peu le champ de vision et d'intégrer les problématiques animales et végétales et autres qu'humaines. » Et puis, tu en as d'autres qui vont dire « Ah maintenant, il faut réinterroger la problématique d'un point de vue agricole, quoi, ou industriel, ou... voilà. » Je sais pas si c'est très clair.
Ce qui est très clair, c'est que tout ça est une chaîne extrêmement complexe où tout est imbriqué. Quand on évoque le cycle de l'eau, on passe par histoire, géographie, écologie, agriculture, alimentation, chimie, urbanisme, politique, philosophie, etc., etc. Merci à Clément Sirgue de l'école de Loire La Rabouilleuse à Roche-Corbon, Clément qu'on retrouvera au prochain épisode de cette série Au Secours pour la suite de notre conversation fleuve à écouter sur notre site Polémix et la voix off.com. Avant qu'on ne se retrouve très vite sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.